Sí. Je suis le président du comité de gouvernance du directoire d'ICANN. Comme beaucoup le savent, depuis l'année dernière, nous avons essayé de mettre en place un processus d'intérêt et de conflit d'intérêts. Nous commençons aujourd'hui une révision du travail réalisé jusqu'à maintenant. Et John Jeffrey du Conseil général de ICANN représente cela. Et nous avons aussi une présentation d'un expert indépendant, Eric Kramer, Aaron Kramer, qui va parler au nom de l'équipe indépendante, d'experts indépendants, qui sont donc Aaron Kramer, Jeremy Brooks et Mervyn King. Bien, donc je vais commencer par John. Bonjour à tous, John Jeffrey du Conseil général. Je voudrais vous montrer rapidement le travail que nous avons réalisé jusqu'à maintenant. Je vois beaucoup de visages que je connais qui étaient à notre session de Costa Rica. Donc, je vais vous montrer cela rapidement parce que je pense que vous le connaissez déjà. Donc, ICANN s'est focalisé d'abord sur la façon dont on pouvait mettre en place les meilleures pratiques. Donc, nous avons discuté dans la communauté sur la façon de commencer à augmenter ou à améliorer les politiques de conflit d'intérêts pour aborder de façon plus claire les problèmes qui existent dans notre communauté et particulièrement au niveau du directoire et comment gérer les conflits. Nous avons besoin de davantage de processus en ligne et pour avoir réglé ces problèmes et avoir des processus de prise de décision au niveau du directoire et au niveau de la communauté aussi. Nous améliorer et le code de conduite et pour atteindre un niveau d'éthique et de pratique d'éthique supérieure. Donc, avec le nouveau programme de nouveau GTLD et d'autres choses, nous voulons avoir des standards éthiques supérieurs pour des organisations comme la nôtre. Donc, sachant tout cela, nous avons mis en place trois révisions. La première avec une firme légale qui travaille avec nous depuis 1997. Nous leur avons demandé d'analyser les documents qui existent pour les conflits d'intérêts, les politiques, les codes de conduite et les comportements. Et nous leur avons demandé de proposer une modification pour ces meilleures pratiques. Donc voilà, c'est ce qui est fait. Ces documents ont été présentés, ils ont été commentés par la communauté et ces changements ont été adoptés par le directoire et ils sont en place. La deuxième partie ou le deuxième domaine de révision a été conduit par une firme légale externe, Inculi, qui analyse ICANN du point de vue d'une situation à but non lucratif. Et donc, on a regardé des entités à but non lucratif de ce type pour voir quelles recommandations on pouvait faire à ICANN. Ils ont constaté que certains documents étaient là, mais ils étaient difficiles à trouver. Donc, est-ce qu'on pouvait les mettre sur des pages permettant aux gens de les regarder et de les consulter? On a fait deux niveaux de révision. Les deux niveaux ont été postés et le dernier a été posté en mai 2012 et toutes les recommandations de ces deux révisions ont été donc mises en œuvre. Dans la troisième révision, était de se focaliser davantage au niveau international et indépendant. Et un groupe a été fondé, un groupe d'experts internationaux. Et ce groupe, on lui a demandé de regarder les problèmes d'éthique d'ICANN, les mécanismes gouvernementaux et de proposer des systèmes en se focalisant sur la fonction de ICANN, les meilleures pratiques et les autres organisations internationales comme ICANN. Et donc, ça a bien marché. Nous avons déjà mis certaines choses en place. Et au cours des discussions préalables, nous avons abordé certaines choses. Le directoire a adopté des lois strictes pour les programmes de nouveau GTLD. Donc, des membres du directoire vont regarder les problèmes spécifiques des nouveaux GTLD. Nous avons aussi formé un sous-comité sur les conflits d'intérêts et l'éthique, qui est formé de 3 directeurs indépendants qui sont Sherine Chalabi, Bill Graham et De Rey et Plazac. Et donc, ils se sont réunis pour parler donc des problèmes d'éthique qui existent dans le directoire, essayer de déterminer quels membres devraient participer à ce comité. Alors, nous avons déjà vu, voyons maintenant, et nous passons cette partie, nous arrivons maintenant aux mises à jour. Alors, aujourd'hui, nous avons un de nos panélistes a formé le groupe d'experts en éthique. Les 3 membres séparés étaient Jeremy Brooks, Mervyn King et Aaron Kramer. Jeremy Brooks si vous vous en souvenez peut-être, il était au téléphone avec nous lors de la réunion de Costa Rica. Il a parlé avec nous sur ce qu'ils allaient analyser. Et je pense qu'il a répondu à quelques questions de la communauté. C'est un ancien président et un responsable de transparence internationale. Et on a aussi Mervyn King, qui est dans ce panel, est un expert dans le domaine de l'éthique et de la gouvernance. C'est un ancien juge de la Cour suprême d'Afrique du Sud. Et finalement, Erin Kramer, qui est le 3e membre de ce groupe, et Aaron Kramer, et je vais le laisser se présenter lui-même. Et comme le dit ici la diapo, il est président, directeur général du Centre de responsabilité d'éthique. Merci beaucoup, John. Je pense que cette présentation est suffisante et donc je vais aller directement à ma présentation. Bien, je vais essayer de voir rapidement, de passer rapidement cette présentation pour profiter du temps et avoir le temps pour les questions et les commentaires. D'abord, une rapide vision de ce groupe d'experts. Nous avons travaillé au cours de ces derniers mois et nous avons fait une série de choses importantes. Nous avons révisé les informations qui existaient, les documents qui existaient et les directives d'ICANN. Ensuite, nous avons considéré les meilleures pratiques d'organisations comme ICANN ou d'organisations similaires à ICANN. ICANN a une série de points qui sont uniques. Ensuite, nous avons interviewé une série de directeurs. Nous avons eu des entretiens avec une série de directeurs, ce qui a été très utile. Et ensuite, nous avons fait des analyses. Pour commencer, un point important est que ICANN est une organisation qui a déjà beaucoup de directives sur ces questions. Ce n'est pas une institution qui manque vraiment de principes et je dirais même que ce n'est pas non plus une organisation qui manque de mise en œuvre de ces principes. Et donc nous pensons que actuellement, en réalité, ce qui nous avons est suffisant en ce qui concerne les directives. La question est la mise en œuvre de ces directives. Et puisque nous avons travaillé avec le directoire il y a quelques jours, il s'agit davantage de performance pour assurer que tout le monde comprenne de la même façon ces principes que de la mise en œuvre de davantage de réglementation. En se basant sur ce point, nous avons conclu que c'était peut-être une conclusion différente de celle de Costa Rica. Nous avons déterminé que d'autres développements de documents n'étaient pas nécessaires et que, de fait, nous pensons que ce qui serait le plus utile serait d'aider à simplifier, à éclaircir les objectifs d'ICANN et ses valeurs de base, les parties prenantes, et de créer à partir de cela une charte de directoire simplifiée qui puisse offrir des directives dans un langage clair, compris par tous, pour que tout le monde sache ce que l'on attend de nous, et tout le monde, les membres du board, du directoire, la communauté d'ICANN, le public, etc. Un des aspects de cela est les parties prenantes clés de cette organisation. Nous pensons qu'il y a certaines valeurs, certaines clarifications pour lesquelles les parties prenantes d'ICANN sont prioritaires, sont importantes au niveau des statuts, au niveau d'autres documents produits par les institutions. Il y a une série de déclarations et concernant les parties prenantes d'ICANN, à savoir qui ils sont, qui sont représentés dans la structure, comme vous le savez tous. Et la question est de savoir comment est-ce qu'on peut assurer qu'il y a une compréhension commune du directoire et comment elles sont considérées au niveau du directoire. Il est clair que on nous a aussi demandé d'analyser les systèmes pour éviter les conflits après et que le directoire ait vu ces modifications. C'est un problème important. Nous avons étudié cette question. Nous avons regardé les résolutions qui existent au niveau du secteur privé, au secteur public, dans la société civile, les organisations de la société civile, des organisations de même type que ICANN. Et nous avons fait des recommandations concernant et donc ces différents points et je vais vous la présenter. Maintenant, pour voir un petit peu le centre de ma présentation, nous avons fait des recommandations sur 6 points que vous voyez ici sur l'écran. Le rôle du directoire, la création d'une charte du directoire, le processus de sélection du directoire, la formation du board du directoire, un système pour les systèmes de sanctions pour le directoire et un système concernant les activités du directeur après qu'il ait quitté le directoire. Donc, ces 6 points sont importants. Il faut dire que nous pensons aussi que ces 6 points sont importants et doivent être mis en œuvre hein, et qu'il faut voir ce que nous pensons est inutile. Et le rôle du directoire, le directoire a un rôle, une obligation fiduciaire légale au niveau d'ICANN. Cela est déclaré dans les statuts. Le statut contient aussi une série de valeurs centrales que les directeurs individuellement et le directoire dans son ensemble doivent respecter et dont ils doivent tenir compte pour prendre leurs décisions. Nous avons aussi remarqué qu'il y avait une perception chez certains, à l'intérieur et à l'extérieur de l'institution, que parfois les directeurs s'avancent ou favorisent l'intérêt de certains groupes, certaines institutions et agissent dans l'intérêt du public. Et donc, nous pensons que la meilleure façon d'aborder ce problème est en établissant des principes qui sont présents et qui sont implicites et dans l'organisation d'ICANN et le droit de loyauté et de bonne foi sont ces principes. Le devoir de loyauté pour représenter les intérêts de l'institution au nom du public dans toutes les institutions auprès dans toutes les démarches que fait l'institution. Cela aidera beaucoup à clarifier et à renforcer la meilleure définition possible du rôle du directoire. Et cela est aussi important par rapport aux conflits d'intérêts et liés au service du directoire dont je parlerai plus tard. La charte du board, en ce qui concerne le dernier point, il y a ici un problème en termes de principes et concernant le directeur individuellement et dans le directoire. Nous pensons que la meilleure chose à faire est de simplifier cela et simplifier cela avec une charte du directoire qui va fournir un système, une guide pour l'utilisateur facile à comprendre pour le directoire. Et donc, nous avons préparé une charte préliminaire et quelque chose que nous pensons va permettre au directoire d'avoir meilleure compréhension, une série de principes qui vont guider leurs actions. Et nous pensons que en mettant en œuvre cela, nous allons faciliter un processus et nous allons guider le directoire à travers une activité qui va l'aider à s'assurer que tous les directeurs ont vraiment une bonne compréhension de leur rôle et que c'est quelque chose qui doit aussi impliquer la direction d'ICANN et certaines parties prenantes et la communauté. Donc, de nouveau, je dirais que la clarté, la simplicité, la synthèse seront les meilleures manières d'assurer que l'ICANN et toutes les personnes qui sont à l'intérieur et à l'extérieur d'ICANN et soit satisfaite. Le processus de sélection du directoire, on a analysé les conflits d'intérêts, on a conclu assez rapidement qu'on devait s'occuper de la sélection du directoire et des membres du directoire parce qu'il y avait différents points de vue basés sur les processus de sélection au sein d'ICANN et à propos des directeurs et de ce que les directeurs devaient faire. Nous pensons qu'avec le temps, le directoire devrait inclure davantage de directeurs qui ont une grande expérience dans les questions de gouvernance et dans les questions de gouvernance parce qu'ils viennent de ONG plus importantes ou parce qu'ils viennent de compagnies publiques importantes ou d'une série d'institutions par lesquelles ils sont passés qui sont importantes pour ICANN. Donc avec une expertise dans le domaine de la gouvernance en particulier, nous pensons que ICANN évolue et que ICANN devient de plus en plus important au niveau mondial et que la gouvernance du directoire doit évoluer aussi. C'est un phénomène qui doit inclure les questions de diversité géographique, de genre aussi, mais cette question d'expérience dans le domaine de la gouvernance. Ensuite, la formation des membres du directoire en ce qui concerne les meilleures pratiques, c'est quelque chose qui se fait régulièrement. Nous pensons que les membres du directoire devraient passer par une formation tous les ans sur les meilleures pratiques et que le directoire devrait évaluer et que les performances des membres du directoire devraient être évaluées au niveau de ces meilleures pratiques, hein, et parce que cela sera tout à fait positif pour le directoire et il y a des conflits d'intérêts qui sont en jeu ici et des principes qui doivent être donc inclus ici. C'est de nouveau un concept très clair. Ensuite, il y a l'introduction d'un système de sanctions pour les membres du directoire. Parfois, il y a un sens de rôle blanc ou noir, on se plaint de certaines choses et on se plaint des règlements, mais en même temps, il y a différents types de problèmes qui peuvent surgir et différents types de responsabilités qui peuvent être appropriées. Donc, nous pensons que l'institution sera mieux servie si un conflit d'intérêts apparaît et que le directoire et les membres du directoire, s'il existe un système de révision indépendante, tout cela peut considérer la série de sanctions possibles. Une chose que nous avons observée dans notre analyse, c'est que à différentes reprises, lorsque les directeurs sont accusés dans les discussions, parfois il serait bon d'avoir il serait bon d'inclure une certaine expertise dans les discussions et peut-être qu'il pourrait y avoir un vote. Donc, il y a différentes approches possibles, hein, et ça n'est peut-être pas dans le meilleur intérêt de l'institution et pas toujours non plus dans le meilleur intérêt de la lutte contre les conflits d'intérêts. Dernier point. Je crois que je devrais être sanctionnée ici. Excusez-moi. Alors, les restrictions pour le directoire après le vote. Ici, c'est important. Nous pensons que la question de la façon dont on peut dont on peut éviter que les directeurs, après leur service, fassent une utilisation inappropriée des connaissances qu'ils ont et des décisions prises. Ici, on a la question de la loyauté qui entre en jeu. Nous pensons qu'il faut que quelque chose soit bien établi pour que le nouveau directeur déclare qu'il comprend, qu'il connaissait ses règlements et que tout cela va donner un système plus solide à long terme de protection contre les problèmes de conflit d'intérêts après le mandat de ce directeur. Donc une période d'un an dans certaines entités devient une période de 2 ans, hein, et représente quand même le problème de la situation des portes tournantes. Donc nous pensons que il faut cette question de loyauté peut prévenir ce problème et peut prévenir aussi peut aussi être un moyen pour ICANN de mettre en place des actions si c'est approprié, hein, et c'est pour cette raison que nous recommandons que ce devoir de bonne foi, de loyauté soit expliqué bien formellement et que cela assurera ainsi que les directeurs d'ICANN
au cours de leur mandat et après leur mandat, vont agir de manière appropriée. Donc, je vais conclure ici et je pense que maintenant, nous pouvons arriver au principal objectif de cette session, et qui est de répondre à vos questions et d'écouter vos commentaires. Donc, nous proposons aux membres de la salle et qui veulent faire des commentaires ou poser des questions sur cette présentation, de faire la queue devant le micro qui se trouve au milieu de la salle. Merci. Andrea Glorioso, ça marche? André Galorerios, de la Commission européenne, je parle au nom de la Commission européenne. Je voudrais remercier le présentateur pour sa présentation. Je voudrais aussi reconnaître et pour exprimer notre reconnaissance envers ICANN qui a pris ces mesures. Nous attendons cependant la décision du directoire après ce rapport parce que nous pensons que ce rapport que nous venons de voir a une importance dans la décision du directoire. Donc nous attendons tous d'émettre des jugements avant de voir la décision du directoire, mais je voudrais faire une observation, une question sur cette présentation. L'observation est la suivante. Je pense que pendant votre présentation, on avait l'impression, on a compris quelle était la mission d'ICANN. Et nous pensons que parfois ICANN est une organisation qui n'est pas très claire en ce qui concerne sa mission, en ce qui concerne sa vision et ses fonctions au niveau mondial. Est-ce que c'est une organisation de politique publique, une organisation qui travaille dans l'intérêt public mondial, ou est-ce que c'est une organisation qui régule certaines industries ou quelque chose au milieu entre les deux? Donc je pourrais dire que la reconnaissance de ICANN de ce que c'est, de ce que sa mission, de ce qui devrait être reflété dans ses processus internes, a aussi un impact sur l'autorité de ICANN dans l'organisation de l'intérêt public et comment on va fonctionner avec les différents organes de l'industrie. La question concerne la période de 1 an ou de 2 ans pour éviter les problèmes de porte tournante dont vous avez parlé. On sait que la Commission a un record public et recommande une période de 1 an ou de 2 ans, peu importe, d'interdiction pour les membres du directoire et pour les hauts et responsables d'ICANN. Je ne sais pas ils entrent dans la portée de votre rapport, mais ils devraient rentrer dans cette portée. Ce que vous ne comprenez pas, ce que je ne comprends pas, c'est que ce devoir de bonne foi et d'intérêt la corporation, comment est-ce que ça va être appliqué en réalité? Parce que ma question serait, est-ce que cela peut prévenir, peut éviter que des épisodes tels qu'ils ont eu lieu dans le passé, aient lieu à nouveau? Et comme j'appartiens à l'administration publique et qu'on s'occupe d'organisations différentes dans mon milieu, nous avons une certaine expérience et nous savons que sans mécanisme d'application, les bons règlements restent des règlements sur le papier et ne sont pas appliqués au niveau pratique. Merci beaucoup. Et c'est une question de... La question concernant les objectifs d'ICANN, je laisse les représentants d'ICANN y répondre. En ce qui concerne l'application des règlements, je pense que vous avez abordé un point très important. Oui, nous pensons que la question de loyauté et de bonne foi, et si ICANN pense que ça a été violé, l'injonction peut être présentée pour prévenir et que des actions ne soient pas incohérentes avec cela. Mais en tant qu'avocat, je ne peux pas prédire certains cas, mais nous pensons qu'il y a une base sur laquelle on peut avoir des questions très spécifiques à analyser et que cette période de 1 an ou 2 ans de non-activité est une période qui doit être appliqué partout dans le monde. Donc la question légale demande un peu plus d'analyse, mais nous pensons que nous avons ici les bases pour mettre en œuvre ici des actions si ICANN pense que cette cela a été violé. Un autre commentaire en ce qui concerne les actions du bord du directoire, je pense que cela a été publié quelque temps avant cette réunion. C'est dans le système de rapport de commentaires publics. Nous avons aussi un processus sur le site d'ICANN dans ce domaine. Et donc, le prochain processus finit le 28 juillet et nous espérons que le directoire va mettre en place des actions. Il doit le faire. Et pour être exact, je dirais que la prochaine période finit le 6 juillet et rouvre le 7 juillet et finit le 28 juillet. Et vous avez aussi parlé du management, des hauts cadres de haut niveau. Nous avons analysé cela et nous avons constaté qu'il y a déjà des réglementations qui existent en place et donc on n'a pas besoin d'avoir un directoire qui, et il n'est pas possible d'avoir un directoire qui agisse, qui agisse de façon, qui ne corresponde pas donc à ces réglementations. La prochaine question. Alejandro Pisanti, je suis un ancien membre du directoire et membre de la communauté. J'ai deux commentaires à faire. D'abord, je m'excuse, je suis arrivée en retard à la session, mais je dois faire un rapport, donc je vais essayer de le faire le mieux possible. Est-ce que j'ai eu l'impression qu'il manquait un élément dans votre rapport et qui est... la nature de le rôle du directeur d'ICANN comme contrôleur de politique et de gestion. Donc, il y a deux aspects ici que je voudrais aborder, voir comment l'impact, quel impact ils peuvent avoir sur les choses importantes. Et l'autre point ici, je suis associée avec Andrea Glorioso. Je suis d'accord avec le commentaire de Andrea Glorioso qui vient d'être fait concernant les mesures d'application qui devraient être proposées pour garantir l'application des périodes de non-activité pour éviter les conflits de porte tournante pour les personnes qui quittent le directoire. J'aime bien le mot injonction. Je ne suis pas un avocat, mais c'est quelque chose que je n'aimerais pas recevoir en tout cas. Et je pense aussi que lorsque j'entends dit par vous, je trouve que c'est un petit peu naïf, à moins que vous l'expliquiez un peu plus, parce que il y a des cas, des affaires de conflits d'intérêts qui impliquent des juridictions qui existent à l'extérieur des États-Unis. Et donc, il n'y a pas vraiment... on a vraiment du mal à penser que ICANN peut aller dans des pays très loin pour... présenter une injonction à quelqu'un qui travaille dans une compagnie dans un autre continent. Hein? Donc, il semblerait que la prochaine étape pour résoudre cela, ce serait que ICANN devrait suspendre les accréditions, les certifications et les affaires qu'il fait avec cette compagnie, par exemple, quelque chose comme ça. On pourrait continuer à réfléchir à cette question, mais pour s'assurer que la mesure a été mise en œuvre. J'ai utilisé le terme d'injonction. Je pense qu'on pourrait parler de façon plus générique, générale d'action légale, hein, si on ne respecte pas donc ce devoir de bonne foi et de loyauté ou la période d'inactivité. Tout le monde comprend ici qu'il peut y avoir des circonstances dans lesquelles ICANN peut devoir recourir à des actions légales et je ne connais pas vraiment les questions pratiques. Je ne sais pas comment on peut faciliter cela ou rendre plus difficile les choses. Il y a un nombre infini de juridictions dans le monde et cela peut arriver. Donc, je ne sais pas si je ne vois pas de différence pratique en termes de mécanisme entre les différents pays. Nous espérons que ce sera une des raisons pour laquelle le devoir de bonne foi et de loyauté sera défendu comme quelque chose qui peut prévenir dans ce problème et qui peut être beaucoup plus efficace que essayer de mettre en œuvre des actions après coup. Beaucoup de gens travaillent et aux États-Unis et on a une série de règlements de conformité. Donc, nous ne voulons pas une série de lois concernant la conformité En ce qui concerne la nature du directoire, il y a des aspects pour lesquels nous pensons qu'il est approprié pour nous de faire des commentaires et d'autres où ce n'est pas le cas. Nous disons qu'il doit y avoir, on doit s'intéresser à l'expérience de la gouvernance du directeur, mais nous pensons que ce n'est pas notre travail et de savoir si la communauté doit ou ne doit pas être représentée au directoire. Ça, c'est l'institution qui doit le décider et ce n'est pas à nous de le faire.
My name is Werner Staub.
Bonjour, je vais faire un commentaire dans mon nom propre. Et depuis la première apparition dans le monde Internet, j'ai été très concernée par ce qui s'est passé. On a beaucoup de règles et la responsabilité associée aux actions nous intéresse. Et par rapport aux risques légaux que ceci implique. Mais apparemment, on ne considère pas la responsabilité par rapport à la cause, parce que ce qui me préoccupe n'est pas la loyauté pour la corporation, mais le public, l'intérêt public que ceci implique et avec laquelle on doit être loyaux. Et si on a un directoire qui a des conflits d'intérêts dans ce champ, il est probablement un conflit principal d'intérêt dans beaucoup de cas. Et puis nous avons des gens qui ne prennent pas de décisions, mais qui regardent dès le côté comment le directoire prend des décisions qui sont défaillantes. Et on a déjà dit récemment que ceci constitue un acte d'irresponsabilité très grand. Et on regarde comment ceci se passe. Et donc, si les personnes observent simplement comment ceci se passe, en fait, est-ce qu'on devrait ou pas porter le cas devant la justice? Est-ce qu'on devrait permettre que ceci se passe ou devrions-nous intenter un procès? Et dû à l'inaction des autres, parfois on a de l'inaction des autres, tels que dans le tir à l'arc numérique, des gens qu'on pourrait appeler des mercenaires numériques qui vendent des services. Et certains parmi eux ont des gens qui ont publié des commentaires là-dessus, tels que le directeur du Nomcom. Et en fait, tout ceci est enregistré et tout le monde sait que l'ICANN a pris la mauvaise voie. N'est-ce pas un conflit d'intérêts? Ne devrions-nous être plus soigneux? Est-ce qu'on fait la bonne chose? Est-ce qu'on travaille bien? Mais bon, ou alors, est-ce qu'on se dit, bon, je vais regarder comment ceci se passe et ne rien faire? Bon, merci beaucoup. Je voudrais répondre à ce que vous avez dit Aaron Kramer, parce que je veux que ceci soit enregistré et dire que nous sommes en train de préciser le processus du directoire et on précise et on renforce la notion du fait que tous les directeurs devraient agir dans l'intérêt d'ICANN et finir avec le service d'Internet qui se sert du public. Ce n'est pas en fait une question d'une institution qui a un but lucratif avec un objectif unitaire. ICANN, en fait, a multiples objectifs qui incluent la garantie de l'Internet qui soit ouvert et un service du directoire qui a le devoir de soutenir et de renforcer l'institution dans sa voie pour améliorer Internet et la rendre plus ouverte. Donc, en fait, on a un public plus large et notre objectif est de devenir une partie de ceci. Et ceci doit être renforcé en tant que concept, en tant que partie de la déclaration du directoire. C'est John Jeffrey qui prend la parole. Je voudrais ajouter qu'il est très important pour l'ICANN d'être formé en tant qu'organisation à but non lucratif et pour le bénéfice du public. Et ceci est dans le centre de nos valeurs et on invoque nos communications récentes avec le directoire et avec le niveau exécutif et avec la communauté et ces valeurs de loyauté que les devoirs incluent et concrétisent et on cherche non pas seulement à être loyaux à l'entité mais aussi à être loyaux aux valeurs et les valeurs sont dans l'intérêt du public global. Si ça ne fonctionne pas parfaitement, on travaille pour l'améliorer. Et tout ceci, oui, bien sûr, dit Bruce Tompkins, a été inclus dans les publications que nous avons faites, dans les documents publics. Et on a ajouté les valeurs centrales dans nos statuts et dans notre mission. Et on a un autre document séparé qu'on a publié qui parle des codes de conduite. Et on a plein de documents, en fait, à relire que le groupe Darren est en train d'analyser pour essayer de simplifier et de les regrouper dans une seule déclaration que tout le monde puisse comprendre. Donc, on doit comprendre le marque de cadre de documents. Chris Despain prend la parole. Merci, Bruce. Je parle dans mon propre nom. Même si je dois clarifier que je suis un membre de directoire d'ICANN. Et je vois qu'on a plein de cadres supérieurs ici. Je veux faire un équilibre ici. On a discuté le conflit d'intérêts et l'éthique. Et on discute souvent la mission et l'objectif d'ICANN qui sont très importants. Mais la mission et l'objectif impactent bien sûr les éthiques et les conflits d'intérêts. En fait, en ce moment, on a un objectif et une mission, et c'est ça qui est le plus important. En deuxième lieu, à mon avis, parmi les rapports que nous avons, on nous a dit ce que vous avez à présent est bon. C'est très bon, en fait. Et on pourrait peut-être faire certaines améliorations, certaines modifications, mais en fait, l'essentiel des documents que nous avons reçus dit que les conflits d'intérêts dans nos politiques sont bonnes. Ils fonctionnent selon les standards que nous avons et même mieux. Et donc, pour ceux qui doivent prendre des décisions, je ne vois pas qu'il y ait des conflits d'intérêts qui nous empêchent de prendre des décisions. En troisième lieu, tout ce que nous faisons est pour le bien commun du public et non pas, c'est pas qu'on veut dire qu'on ne peut pas avoir des erreurs comme on les a eues auparavant, mais en fait, ceci n'est pas ce qui nous fait continuer. Je suis Australien, je travaille en Australie et je suis le directeur du point AU, le nom de domaine point AU. Et en ce moment, je n'ai pas de conflit d'intérêts par rapport au GTLD. Et donc, je travaille dans l'industrie. Et si vous pouvez me dire comment à part des suggestions que vous avez faites par rapport à la loyauté, si vous pouvez me dire comment mon poste au syndicat pourrait être compromis par rapport à ceci. Je voudrais bien le savoir, mais en fait, on ne m'a pas présenté de problème. On n'a pas posé de problème pour moi jusqu'à présent. Merci. OK, je vais laisser Chris passer d'abord parce que peut-être que je vais être très longue. En fait, je suis Christina Rosette. Je parle dans mon nom propre. Et ma première question ajoute à la conclusion de ce que nous avons à présent est plus que suffisant pour notre objectif. Je voudrais demander par rapport à ce qui a été adopté il y a 6 semaines et la mise en place de ces documents. C'est ça qui est curieux pour moi. C'est une question très discrète, donc je vais répondre, dit Aaron Kramer. En fait, ce n'était pas pour cela qu'on a fait cette révision. On avait plein de documents et je vais être claire. On a suffisamment de guides dans les documents et je ne pense pas qu'on ait un cadre de référence suffisant. Et on ne pense pas que cette solution ajoute au reste. Je pense que ce serait trop de dire que ce que nous avons à présent est complètement suffisant. On doit préciser le document qu'on a et le faire plus efficace, mais cette solution n'ajoute pas à ce que nous avons, sinon ça l'exploite mieux. Bien, c'est Christina Rosette qui reprend la parole. Dans une des diapos, vous avez fait référence et je n'ai pas... Voilà, la résolution 2011.08 12.08.19 qui a trait à l'incapacité des membres de directoire d'agir pendant 12 mois sur n'importe quoi qui porte sur les décisions des nouveaux GTL. Et lors de la présentation, vous avez suggéré que cette prohibition, cette interdiction de 12 mois, en fait, est plus large que ce que vous n'avez dit. Donc, je me demande si vous défendez le fait que cette résolution devrait inclure des problèmes pour les votes dans les 12 mois suivants ou pas. Bien, c'est une très bonne question, très claire. Encore une fois, dit Aaron Kramer, oui, le devoir de bonne foi et de loyauté est inclus pour toutes les actions que les membres du directoire prennent et font, non seulement par rapport au nouveau GTLD. Bien, Christina Rosette reprend la parole. Qui, à votre avis, va être responsable d'appliquer les sanctions et ce schéma que vous avez proposé? Aaron Kramer dit, en fait, c'est une affaire interne. En tant que solution, le directoire devrait faire de ceci un devoir pour son système d'action. C'est toujours le mieux. Dans une communauté, on veut avoir la force policière qui soit aussi petite que possible, mais bien sûr, on aura des discussions et internement, elles seront résolues internement et telles qu'on les a à présent. On pourrait aussi avoir un mécanisme de révision indépendante. Donc, c'est assez direct pour une organisation telle que la nôtre, où nous avons un autocontrôle, où on applique les principes que le directoire croit convenables, et puis un mix de résolution interne pour résoudre les conflits. C'est un mécanisme qui ne fonctionne pas. On devrait nommer des personnes qui puissent le faire. Merci, Christina Rosette. Et puis, est-ce que vous avez discuté la responsabilité de l'application et qui serait le responsable? Je demande ceci à Bruce et John. Bruce Duncan prend la parole. Oui, en fait, je pense qu'en ce moment, le directoire au total peut voter un membre du directoire pour qu'il soit interdit, c'est-à-dire pour l'exclure du directoire s'il n'agit pas correctement. On a un sous-comité d'éthique dans le directoire. Et donc, si on voit que la personne a extralimité ses devoirs, le directoire va recevoir une recommandation du sous-comité et puis il peut voter pour savoir si le membre reste ou pas dans le directoire. Donc, comme j'ai dit à présent, ceci applique à enlever une personne complètement du directoire. Et le comité d'éthique recommande en même temps par rapport au directeur si on devrait faire partie d'un comité en particulier ou pas. Et c'est le cas pour la révision des directeurs en général. Vous allez voir que nous avons publié un procès d'une réunion où on a enregistré des conflits et puis peut-être qu'on ne recommande pas qu'une telle personne fasse partie d'un comité. On a d'autres mécanismes en même temps où on recommande, où on dit qu'une personne ne devrait pas être dans un comité et aussi on prend la responsabilité pour les commentaires publics. Je pense que ceci ne répond pas complètement à ta question, dit John Nevett, parce que on devrait être conscient lorsqu'on a des problèmes où l'organisation devrait être responsable, en fait, d'appliquer les politiques que nous avons. Et en même temps aussi, les responsabilités additionnelles qui pourraient être assumées par les membres du directoire à travers ces nouvelles politiques. Bien, dit Christina Rosette, peut-être que je ne comprends pas très bien et j'attribue trop à ce que vous avez dit, mais à mon avis, vous allez laisser entendre dans les diapos que vous soutenez l'opinion de qu'il n'est pas approprié pour qu'un membre du directoire qui a un conflit d'intérêts puisse discuter un sujet auquel il a un conflit d'intérêts. Il ne peut pas voter, mais il peut assister à la discussion et il peut donner son opinion, n'est-ce pas? Je voudrais savoir si j'ai bien compris. Bon, dit Aaron Kramer, en fait, on n'a pas une solution parfaite pour tout le monde. Parfois, peut-être, ce pourrait ne être approprié qu'une personne ayant un conflit prenne partie des discussions et peut-être parfois ça ne sera pas approprié. Nous avons vu que nous avons déjà commencé à discuter des cas où les directeurs s'accusent entre eux ou alors s'abstiennent des votes et tous les conflits potentiels devraient être discutés. Mais pour répondre à ta question, ce n'est pas correct. On ne dit pas que dans tous les cas, un directeur qui pourrait avoir un conflit d'intérêts devrait faire partie de la discussion. Parfois, la personne devrait abandonner la salle et ne pas discuter le sujet. Mais en fait, ça dépendra bien sûr de chaque cas en particulier. John, je m'excuse, mais nous avons des gens qui arrivent déjà pour le programme suivant. C'est le paysage de gouvernance Internet et nous n'avons pas le temps. On a commencé 10 minutes en retard, donc on espère pouvoir finir avec la queue, dit John Jeffrey. Et Bruce Tompkins dit que je suggère de faire des déclarations brièves aux gens qui sont dans la queue. Et puis Aaron pourra répondre à chaque déclaration plus tard. Donc faites vos commentaires et à la fin de la session, vous pouvez rapprocher Aaron pour qu'il vous réponde. Donc des déclarations brièves, s'il vous plaît. Bonjour, c'est Adam Blick. Je parle dans mon propre nom et dans mon expérience, le directeur du NOMCOM, c'était le 11e directeur du NOMCOM. Il a dit que les expériences dans l'organisation de la même taille devraient être considérées. En fait, une partie des critères que le NOMCOM utilise sont un exemple pour nous selon ce qu'on a dit. Donc ma question en fait est si ceci ferait partie des recommandations des Transpach et de l'équipe de révision de responsabilité et ceci renforce en même temps le processus que l'on a à présent. Et si peut-être on pourrait recruter une équipe externe pour faire la révision. Ceci n'a pas fonctionné jusqu'à présent, mais je pense qu'on pourrait le réessayer. Merci. Bonjour.
Membre du board d'ICANN, qui est par ses collègues considéré comme ayant des conflits d'intérêts. D'abord, sur le processus, je ne suis pas sûr qu'on vous parle à vous. J'espère qu'on se parle entre nous, que nous sommes là, la communauté, à échanger des idées avec votre aide, puisque vous avez amené des inputs, mais que ce qui est en jeu ici, c'est quelle va être la suite des événements que va nous permettre d'avoir cette discussion avec les inputs de la communauté. Le setting de cette salle est horrible, parce qu'effectivement, je vous parle à vous. Le problème majeur que j'ai dans l'ensemble de cette situation, c'est qu'on est uniquement en face de la légalité anglo-saxonne. Pour tout. Tous ceux qui interviennent sur ce sujet sont anglo-saxons. Tous ceux qui font ces lois sont anglo-saxons. Alors je sais bien que nous sommes une société non-profit californienne et donc que la loi qui s'applique est la loi de Californie. Mais ce n'est pas parce que la loi est californienne que l'ensemble de notre façon de fonctionner, que l'ensemble de notre façon d'exister et de réagir doit être anglo-saxonne. Parce que la façon dont est pris les questions de conflit d'intérêts, moi personnellement, d'un point de vue de Français habitant en France, je ne les comprends pas. Je ne les comprends pas. Ce n'est pas les habitudes françaises de conflit d'intérêts. Nous ne les prenons pas comme ça dans ma culture. Et donc vous m'imposez un certain nombre de choses que je suis bien obligé d'accepter, puisque je n'ai même pas le moyen de demander à ce qu'il y ait une revue externe, je suis bien obligé de les accepter, mais je ne les trouve pas justes dans une vision internationale de cette organisation que je souhaite de toutes mes forces. Merci beaucoup.
Thanks, Sebastian. Rob.
Merci Sébastien. Bonjour, je suis Rob Hall, je suis le directeur élu du NOMCOM et je vous remercie de vos recommandations et je voudrais que ceci soit enregistré. Je vais essayer de les mettre en place au total. Je voudrais commencer avec la convocatoire pour les personnes avec la même expérience pour mieux faciliter que le processus de prise de décision soit considéré en tant que est-ce que ce sont les personnes appropriées pour évaluer les propositions qu'on essaie d'inclure dans le directoire. Et puis, je travaille dans le NUMCOM et nous avons la tâche d'être plus large et plus ferme. Donc, je vous garantis que pour la prochaine période, nous allons engager autant de personnes que possible pour améliorer ce processus. Donc, je vous remercie de votre travail et on va essayer de mettre en place toutes vos recommandations. Merci. Merci, Rob. On a maintenant la dernière personne. Oui, je suis Paul Foudy. C'est par rapport à l'éthique et les conflits d'intérêts. Est-ce que ceci sera analysé du point de vue des situations de 2009, de septembre 2009, où Paul Statura a apparu et s'est présenté au Congrès des États-Unis et au sous-comité judiciaire du Congrès. Et il les a adressés par rapport au nouveau GTLD. Et il est maintenant en train de se diriger au PDG de la compagnie qui s'est présenté en tant que candidat pour 1400, pour 314 chaînes qu'il a demandé. Merci de votre contribution, dit Bruce Tumkin. Et si vous voulez continuer à parler à Aaron, vous pouvez le rencontrer lors de la pause et nous allons conclure cette session. Merci.
Ladies and gentlemen, we're about to start the Internet governance session.
Messieurs, dames, nous allons commencer la session de gouvernance Internet et je voulais demander aux personnes du panel de venir.